666, le nombre de la bête. Cela se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 13, à partir du verset 11, où l'on parle de ce chiffre, de ce nombre, auquel personne ne peut échapper. Enfin, tous ceux qui ont le nombre de cette bête écrit sur leur front ou sur leurs mains ne peuvent ni acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit sans que ce nombre soit ainsi écrit. Ce nombre de la bête, 666, a fait couler énormément d'encre. D'abord, il en fait couler matériellement parce qu'il a donné naissance au mot le plus long de la langue française. Hexacosioi hexaconta hexaphobie. C'est les gens qui ont peur du nombre 666. C'est une maladie comme une autre et ça fait 29 caractères. Voilà. Mais surtout, ça a fait couler beaucoup d'encre plus sérieusement parce que tout le monde s'est demandé ce que représentait ce nombre. Or, vous savez qu'en hébreu comme en grec, les lettres de l'alphabet sont également des chiffres. C'est-à-dire, au lieu de dire 1, 2, 3, 4, on dit A, B, C, D, E. Ce qui fait que chaque lettre a une valeur numérique. Et du coup, il est très facile de prendre des noms, de prendre des mots, et d'additionner la valeur de leurs lettres, et de voir si on trouve 666. Et c'est un sport auquel les chrétiens se sont livrés depuis 2000 ans, et on a trouvé toutes sortes de choses. Aujourd'hui, la plupart des commentateurs disent que sous 666, il faut trouver le nom d'un empereur romain qui a persécuté les chrétiens. Alors autrefois, on avait trouvé Néron, et puis maintenant on sait que Néron n'a pas persécuté les chrétiens, alors en calculant mieux, on a trouvé que ça pouvait être Domitien. D'autres ont trouvé que c'était le Hérode, qui avait aussi fait du mal aux chrétiens. Un peu plus tard, les catholiques ont trouvé que ça pouvait être la somme du nom de Luther. Et les protestants ont trouvé que c'était la somme des lettres faisant le mot « vicaire fils de Dieu », donc du pape. On y a aussi trouvé le nom de Mahomet, et même Tolstoï, dans « Guerre et paix », a réussi à démontrer que c'était le nom de Napoléon. Donc cherchez bien, en faisant des calculs plus ou moins savants, vous trouverez bien le nom de votre voisin ou de quelqu'un que vous n'aimez pas. Et toujours est-il que je crois que cela est une impasse, une fausse piste. C'est une fausse piste parce que les nombres dans la Bible ont une signification par eux-mêmes. Et il n'y a pas besoin d'aller faire des additions bizarres pour essayer de trouver ce qu'il pourrait représenter. Chaque nombre a effectivement un sens. Et puis par ailleurs, je crois que tout texte biblique doit pouvoir être interprété d'une façon intemporelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer dans tout texte biblique que cela peut nous concerner, nous, aujourd'hui et maintenant. Or aujourd'hui, nous ne sommes menacés ni par Napoléon, ni par Mahomet, ni par Hérode, ni par Domitien ou je ne sais qui. Et donc cela, c'est une mauvaise interprétation parce que chercher ainsi des noms de personnages historiques sous ce nombre, finalement réduit le texte à une situation particulière, alors que ce texte doit nous parler à nous aussi aujourd'hui et maintenant. Alors pour trouver ce que cela signifie, les théologiens ont bien compris en général que 6, c'est le nombre du mal par excellence. Parce que 7, c'est le nombre de l'accomplissement de la création. 7, c'est les 7 jours de la création, c'est la création parfaite. Donc 7, c'est le nombre de la perfection. 7, c'est aussi le nombre de l'union du matériel et du spirituel. Et c'est ça l'idéal de la création et notre idéal à nous. Parce que 4, c'est le matériel, les 4 points cardinaux, les 4 éléments, les 4 pattes des mammifères. Et 3, c'est le nombre du spirituel, c'est le nombre de la Trinité. Et donc 4 plus 3, quand on arrive à additionner, à conjoindre ainsi le matériel et le spirituel, on arrive au 7, c'est-à-dire à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans son acte créateur. Donc 7, c'est la perfection. Et 7 auquel on retire 1, c'est très mauvais, parce que le 1, c'est Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est 1. Et donc quand on prend la création parfaite idéale et qu'on lui retire Dieu, on arrive au mal. Le refus de Dieu L'opposition au spirituel, ça c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux et qui peut faire effectivement beaucoup de mal. Et ainsi, 666, eh bien c'est le mal absolu, c'est l'opposition à Dieu. Et il est vrai que ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais là, il faut quand même le comprendre. Parce qu'en effet, il ne faudrait pas entendre sous ce 6 l'athéisme en général. Il y a des tas de gens qui sont athées et qui n'aiment pas les églises, qui n'aiment pas les pasteurs ou les prêtres ou les curés et qui se disent athées. Mais il ne s'agit pas là d'une condamnation de l'athéisme, mais d'une condamnation de l'ensemble du message du christianisme. Et en effet, refuser Dieu, ce n'est pas tellement refuser un concept, c'est s'opposer à la vie, s'opposer à l'amour, s'opposer à la paix, s'opposer au pardon. Et quiconque véritablement refuse la vie, refuse le pardon, refuse l'amour, là, il y a quelque chose effectivement d'extrêmement dangereux. C'est ce que l'Évangile appelle le péché contre le Saint-Esprit, le seul péché qui n'est pas de pardon, dit-il. Parce que oui, toutes nos fautes peuvent être pardonnées, sauf le fait de ne même pas vouloir le pardon ou de refuser même l'amour en soi. Et donc 666, oui, c'est le mal absolu, c'est l'opposition à toute dimension spirituelle, d'ouverture, de don et de pardon. Et ça, c'est très mauvais. J'en étais resté là, mais je dois avouer que cette explication ne permet pas de rendre bien compte de ce texte, en particulier de cette histoire d'acheter et de vendre. Quel est le rapport? Je dirais, les gens qui vendent et qui achètent avec que l'idée du mal, de la violence, de la haine et de la guerre, c'est quand même assez rare. Il y en a sûrement, mais en tout cas, moi, je ne me sens pas comme cela et je pense qu'aucun de vous ne pouvait vraiment vous reconnaître dans cette image. Et puis d'autre part, je crois que c'est quand même effectivement assez rare, cette opposition radicale au bien. Alors est-ce que la Bible, là, s'amuserait à condamner quelque chose qui n'existe pratiquement pas et qui ne nous concerne pas? Cela m'ennuierait un petit peu. Alors j'ai trouvé un autre indice. C'est que le texte dit « calculez bien ce nombre ». Et il dit « ce nombre, c'est un nombre d'hommes ». Alors qu'est-ce que cette histoire d'homme a à faire là-dedans? Peut-être que l'explication, c'est que, effectivement, vous savez, dans les 7 jours de la création, l'homme a été créé le 6e jour. Et donc, faut-il lire là le 6, non pas comme le nombre du diable, mais d'une façon plus simple et peut-être plus quotidienne, plus immédiate par rapport à nous, comme étant simplement le nombre de l'homme, le nombre de l'humain, le nombre du purement humain, je dirais, le nombre de l'homme sans Dieu, c'est-à-dire de l'homme sans le 7e jour, qui est le jour où Dieu bénit sa création. Et en effet, je crois que là, nous touchons quelque chose d'important, parce qu'il n'y a pas que le mal, la violence et la haine qui font du mal. Il y a aussi tout ce que nous faisons sans Dieu, tout ce que nous faisons d'un point de vue purement humain, trop humain, finalement un petit peu matérialiste, tout ce que nous faisons lorsque nous mettons un petit peu de côté simplement la dimension de la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire quand on s'arrête au 6e jour. Et c'est vrai que pour arriver au 6, on n'est pas forcé de refuser avec énergie le 7, on peut simplement s'arrêter au 6. Et là, c'est beaucoup plus fréquent parce que du coup, je dois dire que je me reconnais un peu dans ce 6. Parce que souvent, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout et j'en reste à un acte matériel, purement concret, quotidien. Et souvent, nous oublions, c'est vrai, de couronner ce que nous faisons, ce que nous pensons ou ce que nous disons par cette dimension de la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire par l'intégration de l'idée de la grâce, du pardon, de l'amour, de la liberté et de cette lumière divine de l'esprit. Et c'est bien ce qui nous guette, effectivement. Ce qui nous guette, c'est que nous finissions par ne plus pouvoir acheter ni vendre, ou ne plus pouvoir même agir ou penser d'une façon qui soit autre chose que purement humaine. Alors, ceux qui sont menacés, là, on nous dit qu'ils ont sur le front et sur la main ce nombre de la bête, Le front, eh bien, c'est la façon avec laquelle nous pensons. La main, c'est la façon avec laquelle nous agissons. Et la question, c'est bien de savoir de quoi est marquée notre pensée et par quoi est marqué ce que nos actes et ce que nous faisons. Est-ce que ce que nous faisons est uniquement marqué par la dimension purement humaine, ou est-ce que nous savons intégrer une part de transcendance, d'amour, de don, de grâce dans ce que nous faisons dans ce monde? Et quand nous pensons, est-ce que nous pensons uniquement des mécanismes intellectuellement purement humains, matériels, matérialistes, ou est-ce que nous arrivons, quand nous pensons, à intégrer cette septième dimension, je dirais, qui est celle de la bénédiction, celle de l'esprit, celle de l'amour et du pardon? Ça, c'est extrêmement important, que l'on puisse effectivement acheter et vendre sans oublier cette dimension. Alors l'Apocalypse ne dit pas qu'il est mauvais d'acheter ou de vendre, hein. On peut évidemment faire des affaires dans ce monde, mais peut-être devrions-nous ne jamais oublier que celui à qui l'on achète ou celui à qui l'on vend est un client, peut-être, un prospect, mais aussi un enfant de Dieu. Et que le sens de notre vie n'est pas uniquement de faire des affaires, mais le sens de notre vie, c'est aussi autre chose et peut se trouver justement dans la dimension de la grâce. Et peut-être d'ailleurs faut-il aussi entendre là le triplement de ce nombre, 666. C'est une façon de le mettre en valeur, bien sûr, mais plus que cela, 666 devient très dangereux parce que mettre 3 fois 6, c'est faire du 6 une sorte de trinité. Alors, on se moque effectivement dans les histoires pour jeunes, les catéchumènes rigolent en disant « au nom du pèse, du fric et du Saint-Bénéfice ». Eh bien, il y a certainement une trinité possible qui est une perversion de la trinité, et au lieu de croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, eh bien, on croit dans l'homme et dans l'homme. C'est-à-dire qu'on fait de l'humain, du matériel, du purement humain, sa divinité, ce en quoi l'on croit, ce que l'on pense être ultimement important dans notre vie, la chose qui nous préoccupe et la seule chose qui nous préoccupe. Et ça, c'est extrêmement grave. Et donc, je pense que l'Apocalypse, là, nous met devant une mise en garde qui nous touche de près parce que, oui, les gens qui sont purement dans la haine et dans le refus de Dieu sont rares. Mais par contre, nous avons vite fait de considérer que pour nous, le plus important, ce sont nos affaires humaines, trop humaines, purement humaines. Et pourtant, on ne peut pas servir de maître. Et comme dit l'Évangile, on ne peut pas servir à la fois l'argent et l'esprit et Dieu. Et comme on dit également, si l'on peut se servir de l'argent, nous ne devons jamais servir l'argent. C'est-à-dire considérer que le monde matériel soit la chose la plus essentielle de notre vie. Alors ce qui s'oppose à ça dans le texte, c'est les 144 000. Ces 144 000, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils n'ont pas ce nombre de l'homme, que l'homme, que l'humain, que l'humanitaire, que l'humanisme. Ceux-là, ils ont marqué sur leur front le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont justement cette capacité à penser en référence à une transcendance spirituelle. Et il y a par ailleurs un autre grand changement. C'est que ceux qui étaient dans l'humain, purement humain, ils sont marqués par un numéro. Et les enfants de Dieu, ils sont marqués par un nom, qui est le nom de Dieu. Et je crois que là, c'est aussi une révolution considérable quand on passe du numéro au nom. Quand on est dans le purement humain, eh bien, vous êtes un humain parmi d'autres. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça, d'ailleurs, dans notre travail, dans notre métier. On vous met dehors, ou quelqu'un d'autre vous remplace, ou vous êtes malade, ça ne dérange personne. Le lendemain, quelqu'un d'autre prend votre place. Dans l'humain, purement humain, nous sommes des numéros. Alors que dans notre relation à Dieu, nous sommes des personnes. Et nous ne sommes pas marqués d'un nombre, d'un chiffre ou d'un numéro de sécurité sociale, nous sommes marqués par un nom. Et le nom, c'est d'être quelqu'un. Et donc nous sommes justement quelqu'un, non pas par ce que nous faisons matériellement dans ce monde, mais par la qualité de la relation que nous arrivons à nouer avec nos frères, avec nos proches, et avec une certaine transcendance, avec un certain idéal. Et ainsi nous pouvons devenir quelqu'un et comprendre que l'essentiel dans la vie n'est pas le quantitatif, mais c'est le qualitatif. L'important dans la vie n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et l'important, c'est ce Dieu qui nous dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Et non pas « Tu es le 60 millionième français » ou je ne sais quoi. Et après cette mise en garde, l'Apocalypse est prête à nous donner encore une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est encore avec les nombres. Parce qu'en effet, j'ai bien entendu la leçon, oui, je dois être capable d'agir et de penser en faisant toujours référence à Dieu. Mais en serai-je capable? Et qui en sera capable? Et qui sera sauvé? Qui pourra dire qu'il n'est jamais tombé dans l'utilitaire, dans le matérialisme et dans le chiffre? Eh bien, l'Apocalypse, là, nous donne encore une bonne nouvelle. Et vous voyez que l'Apocalypse n'est certainement pas une menace, mais c'est une bonne nouvelle. Il dit que ceux qui seront sauvés et qui auront la chance d'avoir cette marque de Dieu sur eux, ils seront 144 000. Alors, il y a les témoins de Jéhovah qui les comptent et qui disent, bon, ben, il y aura 144 000 élus et après, les autres seront perdus, c'est facile. Mais en fait, c'est pas ça. C'est toujours ce plaisir des nombres dans la Bible. C'est que si l'Apocalypse avait dit « Il y aura 77 000 élus », alors ce serait très angoissant. Parce que 7, je vous l'ai dit, c'est la perfection de la création. Donc si l'Apocalypse avait dit ça, cela veut dire que ne pourraient être sauvés que ceux qui arrivent à la perfection de la création, à la perfection de leur idéal, et qui jamais, jamais, jamais n'oublient leur Dieu. Si à l'inverse, elle avait dit qu'il y aurait 44 000 élus, 4, je vous l'ai dit, c'est le nombre de la matière, le nombre des animaux, mammifères, eh bien alors ça voudrait dire que tout le monde serait sauvé. Tout le monde, Hitler comme Mère Teresa, les voleurs comme les bonnes sœurs, les hommes et les bêtes, les bons et les mauvais, ce qui ne serait, à mon avis, pas très intéressant comme théologie. Mais là, on nous dit qu'il y en a 144 000, c'est-à-dire 12 fois 12 fois 1000. Donc d'abord, il y a un peu de place. Et puis ensuite, 12, c'est les 12 tribus d'Israël. 12, ce sont les 12 disciples. 12, c'est tous ceux qui se reconnaissent comme appartenant au peuple de Dieu. Tous ceux qui acceptent de vouloir suivre Jésus, même si l'Évangile nous les montre sans arrêt, maladroits, manquants de foi, imparfaits, doutants. Et donc 12, ce ne sont pas les parfaits, mais ceux qui de leur cœur veulent répondre à l'appel de Dieu. Et autrement dit, si l'on dit qu'il y aura 144 000 élus, cela veut dire que ne seront sauvés pas seulement ceux qui seront parfaits ou totalement spirituels, pleins d'amour et de grâce, mais tous ceux qui auront dit « Oui, moi je veux bien faire partie du peuple de Dieu » et de dire « Oui, moi je veux bien être marqué du sceau de Dieu », c'est-à-dire avoir sur moi le nom de Dieu sur mon front et sur ma main. Tous ceux qui acceptent de répondre. Ça, c'est quelque chose de très important en théologie chrétienne. Ça s'appelle le salut par la foi. En effet, nous ne sommes pas dans le salut par les œuvres et on ne dit pas « ne seront sauvés que ceux qui sont parfaits », mais la foi, c'est de dire « oui Seigneur, moi je voudrais y arriver, je veux essayer, j'ai le désir d'y arriver ». Après, je fais ce que je peux, hein, parce que je suis faible et oublieux, mais néanmoins, je voudrais y arriver. Et c'est ceux-là qui sont sauvés, tous ceux qui disent « oui ». Après, ce qu'ils font, ben, ils font comme ils peuvent, pauvres gens, comme nous, on fait tous ce qu'on peut. Mais on est sauvés par la foi, par le simple fait de vouloir appartenir à Dieu et de vouloir accepter sa grâce. Donc vous voyez que c'est une excellente nouvelle. Accepter peut-être même d'être marqué du sceau de son nom. Cela ne veut pas dire que l'on soit parfait, mais cela veut dire qu'on accepte de vouloir appartenir à Dieu pour tenter de le servir au mieux. Et du coup, nous avons à la fois une mise en garde assez forte, mais en même temps suffisamment réaliste pour qu'elle puisse nous toucher avec ces 666, ce nombre de la bête qui menace un petit peu tout le monde, et en même temps une annonce extraordinaire de la grâce et du salut par la foi. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes tous marqués par certaines choses, mais par-dessus tout, nous sommes appelés à accepter d'être marqués par ce nom extraordinaire qu'est ce nom de Dieu, et que notre front, nos mains soient marquées du nom de ce Dieu de l'Évangile, qui est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, de paix, de joie, de service, de lumière et de vie. Et cela, ne l'oublions jamais, car c'est pour nous une grâce qui nous est faite. C'est un appel et c'est une chance extraordinaire de pouvoir vivre de cette grâce et de pouvoir redonner cette grâce dans ce monde qui nous entoure. Amen.